si gira. Silenzio.
Camera.
Motore.
Motore. Partito.
Check.
Odissea 14702 prima.
Avanti.
Azione.
Les podcasts de la Cinémathèque.
Je suis persuadé que tout ce qui est arrivé dans le monde ces dernières années est totalement dirigé contre moi. Il y a eu la révolution culturelle, mai 68, les Rolling Stones, les cheveux longs, les Black Panthers, les Palestiniens, l'Underground, et depuis 2-3 ans, plus rien. La musique pop est devenue religieuse, et je n'aime que la musique populaire.
Longtemps, l'œuvre de Jean Eustache est restée, malgré sa réputation, une sorte de secret bien gardé chez les cinéphiles. La rareté de sa diffusion en salle, comme à la télévision, rendait exceptionnel le passage de certains films du cinéaste. 13 films réalisés entre 1964 et 1980, deux longs métrages, une poignée de fiction et de documentaires, parfois les deux en même temps, tous précieux et tous des prototypes. Des propositions qui viennent régulièrement brouiller la notion de fiction et de réel pour mieux questionner le spectateur sur la nature des images qu'il regarde. Passer la parole à la question est l'une des propositions majeures de son opus magnum « La maman et la putain », réalisé en 1973. Mais cette phrase pourrait s'appliquer à la plupart de ses œuvres. La parole, comme un acte de résistance, de capitulation, ou encore celle d'une prise de pouvoir. Cinéaste de l'intime et de la démesure, il aimait provoquer, jouer avec le faux pour mieux révéler le vrai. Maintenant que l'œuvre est visible par le plus grand monde, se pose la question, entre autres, de sa pertinence dans le monde d'aujourd'hui. Pour répondre à cette question, mais également remettre en perspective le parcours singulier de ce cinéaste autodidacte, et pour évoquer ses films emblématiques, nous recevons Philippe Azoury, journaliste, critique et écrivain, qui a fait paraître chez Capricci l'ouvrage le plus fouillé et complet sur le cinéaste. Jean Eustache, un amour si grand.
Je préfère, dans un film fait sur la parole, filmer le récit de l'action que l'action.
Alors Philippe, comment as-tu découvert le cinéma de Jean Eustache et quel impact a-t-il eu sur ta cinéphilie ?
Premier passage télé de la maman, en fait, je crois. Et à ce moment-là, j'ai 16-17 ans et j'achète une cassette. Alors il fallait une cassette de 4 heures. Oui, c'est ça, il avait passé aussi L'amour fou quelques temps plus tard, qui durait 5 heures. Donc il fallait trouver des cassettes qui étaient vraiment adaptées, très rares. Mais les cassettes de 4 heures, on les trouvait. Et j'ai enregistré ça, donc je suis couché très tard, j'ai lancé le truc, je suis allé me coucher. Et j'ai regardé La maman et la putain. J'ai commencé à en regarder une heure le samedi après-midi, c'est-à-dire le lendemain. C'était le vendredi soir. Il y a quelque chose qui me plaisait, quelque chose qui. Comme ça, qui résistait. Et puis, j'en ai regardé une deuxième heure le mercredi après-midi. Là, ça commençait à vraiment me plaire. Et le dernier, le samedi d'après, au bout d'une semaine, pareil, je m'en suis remis une heure et demie. Terminé le film, enfin, je l'ai vu comme ça, comme un feuilleton, et j'étais à la fin du film, j'étais eustachien, enfin, c'était plié. Et puis surtout, moi, ce qui m'avait touché, c'était le Père Noël à les yeux bleus, parce qu'à l'époque, je suis né, j'ai grandi dans le sud de la France, à Sète, c'est pas très loin de Narbonne, je connaissais un peu Narbonne aussi, et c'était le fait de Noël ressemblait à ça, et ce côté provincial, enfin ancré, avec cette frustration que ça peut générer, m'a bouleversé. Donc j'étais bouleversé à deux ou trois endroits, enfin, de Eustache, le conteur, ce espèce de récit sur l'amour qui est dingue, qui est celui de la maman et la putain, avec cette langue, et son aspect presque, pas que sociologique heureusement, mais sociologique quand même, provincial, que je ne retrouvais ailleurs, nulle part, dans le cinéma français Nouvelle Vague, qui était quand même très très parisien à ce moment-là.
Qu'est-ce que le cinéma d'Eustache produit en toi et quel type de questionnement soulève son cinéma auprès des spectateurs ?
Qu'est-ce que ça produit Eustache en nous ? Évidemment, enfin, y a une morale de cinéma sur ce qu'on fait avec un plan qui est incroyable. Il y a une façon de saisir à la fois le direct et en même temps de le mettre en crise qui est folle. Enfin, y a un cinéma de la parole qui, moi, m'a toujours touché, enfin, qui vient complètement du cinéma des années 30, et même du muet, c'est ça qui est troublant chez lui, c'est qu'il cadre comme un cinéaste muet, mais pour filmer des gens qui parlent pendant une heure, ou 2h, ou 3h40. Ce texte qui est... Là, on peut en parler comme texte, enfin, je veux dire, qui est La maman et la putain, c'est un des grands textes amoureux, c'est peut-être même le plus grand sur le XXe siècle, même si c'est un scénario de dialogue de film, même si ce scénario-là n'est sorti qu'en 86, bien après sa mort, 5 ans après sa mort. Et il faut faire avec aujourd'hui, c'est ça qui est compliqué, c'est-à-dire que ce qui s'éclaire aujourd'hui, je pense qu'évidemment, étant garçon par identification, je m'étais beaucoup plus appuyé sur Alexandre et une façon de monopoliser la parole, qui n'était pas forcément très saine. C'est mon grand jour d'autocritique, je peux y aller. Mais derrière ça, il y avait une interrogation qui m'a porté pendant tout le livre, c'est que qu'est-ce qu'elle dit, Véronica ?
Votre petite tête qui comprend tout, qui raconte des grands trucs grandiloquents et absolument ridicules et prétentieux. Ce qui est très amusant entre nous, c'est qu'il y a quelqu'un qui se prend au sérieux et quelqu'un qui ne se prend pas au sérieux. Devinez qui se prend au sérieux.
De vous deux ou de nous trois?
De nous deux, d'Alexandre et de moi. Écoute, Marie, permets-moi au moins une fois.
Mais je te permets.
Permets-moi, je t'en prie, Marie. Permets-moi pour une sombre histoire de cul. Comprenez tous les deux une fois pour toutes que pour moi, histoire de cul n'ont aucune importance. Que vous baisiez, j'en ai rien à foutre. Je suis tellement heureuse avec vous. J'en ai rien à foutre. Comprenez-le au moins une fois pour toutes, j'en ai rien à foutre. Que je vous aime. Regardez, je commence à être saoule et je bégaye. Et c'est absolument horrible parce que ce que je dis, je le pense réellement. Et je pourrais rester tout le temps avec vous. Tellement je me sens heureuse. Je me sens aimée par vous deux. Et l'autre qui me regarde avec ses yeux en couille demi, d'un air sournois en pensant: oui, ma petite, tu peux toujours causer, mais je t'aurai. Je vous en prie, Alexandre, je joue pas la comédie, mais qu'est-ce que vous croyez? Pour moi, il n'y a pas de pute. Pour moi, une fille qui se fait baiser par n'importe qui se fait baiser n'importe comment n'est pas une pute. Pour moi, il n'y a pas de pute, c'est tout.
Mais la merveille des films d'Eustache et l'origine, je pense que ça, tout vient de l'origine provinciale et pas que provinciale, parce qu'il faut quand même. Enfin, Eustache est l'un des très très rares cinéastes prolétaires. Il y a eu Vigo, il y a eu Truffaut, mais il s'est jamais entendu avec Truffaut. Ça, beaucoup, trop proche, hein, je pense, beaucoup trop proche, et du coup avec une méfiance respective. Beauvois, je crois, plus tard, enfin il doit y en avoir d'autres aujourd'hui, mais voilà, très peu, beaucoup. Enfin, voilà, le cinéma est un art qui a été très vite, en tout cas en France, et d'autant plus le cinéma, disons, on va dire, d'auteur, d'art et essai, parce qu'il faut en vivre et qu'il faut pouvoir le faire, que c'est difficilement un métier, qu'il faut arriver à avoir le surmoi pour s'estimer cinéaste. Enfin, est-ce que c'est un métier? Ce qui fait que les enfants du prolétariat en sont exclus. Quand Eustache arrive à 18 ans à Paris, d'abord il est né à Pessac, à l'âge de 12-13 ans, tout ça est raconté dans une sale histoire, il rejoint sa mère à Narbonne, ça se passe pas très très bien. Et à 18 ans, il est ouvrier, il monte à Paris avec son copain Martinez de Narbonne et ils bossent tous les deux aux ateliers de la SNCF. Qu'est-ce qui fait que ce type qui déjà à Narbonne allait voir des films pour apprendre à embrasser les filles et puis progressivement à regarder les images, a décidé d'aller rue d'Ulm dans le 5e arrondissement aller voir les projections de films que faisait Langlois et voir justement des Nozoguchi, des Guitry et tout à coup découvrir un continent entier. Rentrer en cinéphilie, sa femme Jeanne Delos travaille au Cahier du cinéma comme secrétaire, il commence à venir la chercher à 18h et puis c'est Douché qui raconte ça très bien. Il dit, bon, d'abord il vient à 18h, puis il vient à 17h30, puis il vient à 17h, puis il vient à 16h30, puis au bout d'un moment, c'est vrai qu'il est tout le temps là et il dit pas un mot. C'est l'autodidacte provincial dans toute sa splendeur, c'est-à-dire que, et sa misère aussi, c'est-à-dire écrasé par des très très grands parleurs, justement, qui étaient Rivette, Doucher, Rommel, Godard, sans doute, qui devait passer par là de temps en temps, mais plus vraiment à cette époque-là, c'est Comolli, Narboni, Moulet, Labarthe, et Marco, et Schul. Jean-Jacques Schul, qui à la fois à l'époque son meilleur ami avec Jean-Noël Pic, mais qui est en train d'écrire et qui est en train de devenir écrivain, mais qui va comme ça avec Rose Poussière en 71 ou 72 créer quelque chose. Mais donc il écoute, il passe son temps à écouter, puis il finit par faire un film, on dit en braquant la caisse des cahiers. Ça, je sais pas, je mets ça entre guillemets, ça m'était avéré, mais la rumeur circule, mais on le dit d'autres films aussi. C'est Les Mauvaises Fréquentations, enfin, c'est du côté de Robinson. Avant, il y a juste un court-métrage qui s'appelle La Soirée, qui fait avec Vecchiali. Il prend Vecchiali pour un court-métrage dont il n'a jamais fait la post-synchro, et c'est la lecture d'un texte. C'est déjà assez fou parce qu'il y a quasiment tout est là, et en fait, la seule chose qu'il ne fait pas, c'est la post-synchro.
On suit deux types un peu désœuvrés qui décident un dimanche après-midi d'aller draguer les filles au dancing du côté de Pigalle. Mais ça ne va pas se passer comme prévu. Ils se sentent rejetés et par dépit vont se venger sur une jeune femme en lui volant son portefeuille.
Et voilà, Les Mauvaises Fréquentations est un film qui... C'est un film nouvelle vague, post-nouvelle vague, dans la lignée de ce que faisait Chabrol, de ce que fait Romer. On pense beaucoup au tout premier conte moraux de Romer, par exemple, mais c'est pas des truands, c'est pas le samouraï, c'est pas des mafieux qui ont un code de gangster, c'est pas Bob le flambeur.
Qu'est-ce qu'il y a dans son morlingue?
Oh, des photos. T'as vu la tronche? Et celui-là?
Lequel est son mari, lequel est son amant? Tiens, ces gosses. On est des pourris tout de même.
Ouais. Ouais.
C'est des minables dans un milieu déjà verrouillé. Et qui essayent de jouer au dur et qui sont mis nuls, mais pas comme c'est pas possible d'être nul, ils veulent. Et en même temps, il les aime, quoi. Il les aime, et il les aime dans leur nullité. Et il arrive, pareil, à les regarder évoluer, ou s'enfoncer, se la raconter. Et il capte quelque chose de ce quartier-là, alors que ce qui ne tourne pas en province, là, souvent, il tourne à Paris. C'est déjà totalement différent. Jean Douchet avait une formule géniale là-dessus. C'est vraiment l'arrivée par effraction d'un autre milieu social dans la nouvelle vague, qui était quand même des petits messieurs en cravate qui fantasmaient beaucoup plus le monde qu'ils ne le connaissaient. Lui est arrivé avec cette espèce de savoir inné qu'ont les gens qui ont travaillé trop tôt, qui ont dit qu'ils fréquentaient un peu Pigalle. C'est là-bas qu'on l'appelait Daniel, qui est son autre nom d'alter ego.
Peu de temps après, notamment grâce à une lettre de Godard, il réalise Le Père Noël a les yeux bleus avec Jean-Pierre Léaud, dont le personnage ici a une origine sociale plutôt modeste. On sent d'ailleurs l'origine autobiographique du récit. On le suit à la recherche de petits boulots, dont le but unique de s'acheter un duffelcoat à Noël, qui lui permettrait de cacher la pauvreté de ses vêtements.
Quand le film se fait, c'est 66, il commence à circuler vers 67, il sort en salle, je pense, autour de mai 68, je ne sais plus si c'est juin, ou je crois que c'est juin ou août. Ce jeune homme qui est Jean-Pierre Léaud, et qui en plus est un jeune homme politisé chez Godard, donc on peut imaginer facilement s'emparer de slogans maoïstes et les faire sien, surtout quand même quelqu'un qui est dans la mouvance des cahiers, est un jeune homme qui... comme il l'a dit, comme Eustache l'a dit dans une interview qu'il donne à Philippe Garrel pour la télé, c'est quelqu'un qui a pas de fric pour bouffer, et quand on n'a pas de quoi bouffer, on pense pas au maoïsme. Et tout le monde ferme sa gueule, parce que comme il vient quand même de là, d'un coup, il est à la fois tenu à distance, qu'est-ce qu'il nous veut, de suite, il marque sa différence. Et puis ensuite, voilà, il y a quelques années où il doit passer au long métrage, qui prennent du temps. Il y a La Rosière, c'est retourner à la province, filmer des rituels. C'est-à-dire, c'est presque un sociologue, c'est un ethnographe. Ça se voit que c'est... Moi, je pense que l'autre grand cinéaste avec lequel, en France, il a dialogué sans que ce soit écrit, c'est Rouche. La seule qu'on n'entend pas dans la Rosière, c'est la Rosière. Tout le monde parle à sa place. C'est déjà... Elle prépare la révolte de Véronica. Entre-temps, c'est très important, il devient monteur pour plein de films, chez Moulet, chez Marco.
Mes petites amoureuses est le premier long-métrage que doit tourner Eustache au début des années 70. Mais durant la préparation du film, il va voir la production et arrive avec un nouveau projet en cours d'écriture. Tu dis dans le livre que faire ce film à ce moment précis était nécessaire à sa survie sentimentale.
Et c'est la maman et la putain, qui pensait écrire en 8 jours et qu'il finira par écrire quasiment à l'instant T. Lui qui faisait un cinéma qui était très sur la mémoire, un cinéma hypermnésique, qui se souvient de tout, cherche à utiliser cette hypermnésie dont il souffre. C'est génial, hein, l'hypermnésie, vous lisez une page de Proust, c'est ce qu'il faisait, il était capable de la réciter. Même chose pour les films, elles sont nombreuses, les fiancées de quelques soirs, qui racontent de plusieurs semaines, de plusieurs mois, de plusieurs années, qui racontent... comment Eustache, exactement comme dans La Maman la Putain, enfin, je veux dire, de longues soirées, des longues nuits à écouter des vieilles chansons des années 30, et puis d'un coup, il se mettait à raconter Vertigo. Ça prenait 6 heures. ça prend du temps. Mais il raconte Vertigo flanc par flanc et ça prend 6 heures. Mais le problème de quand on se souvient de tout, bon, c'est génial quand on le raconte comme ça, mais on se souvient du pire et on n'arrive pas à s'en délester. Mes petites amoureuses, c'est l'histoire de quelqu'un qui fait un film sur tout ce qui l'a blessé. C'est vraiment le décompte jour par jour, enfin, de ce qui a pu le blesser et rendre cet enfant à jamais malheureux.
Mon premier film avait... Mon tout premier film avait beaucoup d'idées. Comme tous les premiers films, on a tellement de choses à dire. Cela fait 10 ans. Le temps a passé. J'ai pratiquement pensé à renoncer au cinéma. Pensant que je n'étais peut-être pas fait pour faire du cinéma, que ça avait été une erreur d'adolescence, que cet espoir avait... Et puis, j'ai décidé de nouveau à en faire. Et j'ai considéré ce film, La Maman et la Putain, comme mon premier film, comme si je n'avais rien fait auparavant. J'ai eu envie de dire énormément de choses d'un seul coup, comme on fait pour un premier film, c'est-à-dire en vrac, en bric-à-brac, comme ça, sans schématiser, enfin, sans styliser.
Et avant ça, donc, alors que ce projet est amorcé, il y a la maman et la putain, qui, cette histoire-là dans la vie, ce point d'interrogation, c'est-à-dire qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie? Je ne comprends plus rien, je suis amoureux de 3 femmes à la fois. Et il se met à l'écrire, et on dit qu'il enregistrait des trucs sans vraiment le consentement des gens, mais il est quand même fort probable que l'hypermnésie faisait que Véronica, c'est quelque chose de l'ordre justement du monologue, et qu'il descendait au café tout de suite en bas, et avec un carnet, un stylo, et il notait à la ligne près ce qui avait été dit, puisqu'il ne comprend pas ce que lui dit Véronica. Il ne comprend rien à ce que lui dit Véronica. Alexandre ne comprend rien, n'entend rien, lui non plus, mais il reprend parce qu'il dit « je vais le filmer », tout vient de là en fait, je filme ce point d'interrogation, qu'est-ce qu'elle veut me dire, et peut-être que le cinéma est quand même dans sa hiérarchie, elle est plus grande que la vie, plus éclairante que la vie en tout cas, à le voir sur écran, joué par quelqu'un d'autre, dans une disposition des places très très perverse, puisque Françoise Lebrun qui joue Véronica est en fait le premier amour, la prof de français qui ne veut pas de lui au début du film. Donc il y a quand même un jeu de chaise musicale qui est très pervers, il a quand même une dimension perverse difficile, hein, chez Eustache. Mais à toucher des choses, justement, à trucher le vrai, le faux, truquer, tricher, trucher, c'est vraiment des mots comme ça qui se frottent pour voir, déplacer des choses et voir ce qui se produit en matière aussi de devoir incorporer, ça c'est un travail analytique, la parole de l'autre, y compris la parole rivale ou la parole qui fait mal, la parole ennemie. Il faut aller au bout de l'épuisement de la parole de quelqu'un qui doit durer 2h15 ou 2h30 avant que quelque chose se casse et se retourne. Donc ça exigeait ce qui est inexigeable aujourd'hui en termes de patience et avec des raccords dont on se dit mais c'est pas possible, enfin c'est complètement faux alors que ce mec est monteur. C'est vraiment, c'est les continents qui se heurtent. Et inventer un monde en étant le plus documentaire possible, inventer c'est un des plus beaux films de vampires, enfin de vampires de la nuit. C'est Les Amants de la nuit, mais c'est Vampires de Dreyer plus Les Amants de la nuit de Nicolas Rey. Et en même temps, c'est Tony de Renoir, c'est Mizoguchi, c'est l'intendant Sancho, ou Les Amants crucifiés, et c'est le roman d'un tricheur, et c'est Mabuse, et c'est Vertigo aussi. Enfin, c'est faire l'épreuve de voir qu'en fait on peut mettre sa vie dans un film, mais ça ne va pas la sauver pour autant. Le film va à Cannes, il est sélectionné à Cannes, c'est la fameuse année des scandales, enfin, c'est la grande bouffe, c'est de Ferreri, c'est ce film-là, c'est Cannes d'un coup se prend l'époque dans la gueule, et ce film est à la fois salué, haï, exactement ce que voulait Eustache, et malgré tout, il en sort à bout. Enfin, comme n'importe qui finalement met toute sa vie en jeu dans une œuvre, même en prétendant provoquer le pire pour voir ce qui va se passer, quand le pire même et le meilleur se passe, c'est inaudible. Enfin.
Dans ton ouvrage, tu utilises un scénario de tournage de La Maman et la Putain. Il s'agit de l'exemplaire de Luc Béraud, assistant d'Eustache sur La Maman et la Putain, Mes Petites Amoureuses, et la première partie d'une sale histoire. Il a d'ailleurs écrit un ouvrage passionnant sur cette expérience, Au travail avec Eustache, aux éditions Institut Lumière Actes Sud. Et il se trouve que cet exemplaire de scénario se trouve dans les archives de la Cinémathèque. Qu'est-ce que tu as découvert en travaillant dessus ?
Il y a la version qui est une version qui même sans doute n'a jamais été donnée à quiconque d'autre sinon à Luc Béraud et à Pierre Cottrel, le producteur. Je pense que c'est à peu près les deux seules personnes qui ont eu cette version-là. Et c'est une version qui est où on voit, on lit en tout cas la part d'acrimonie qu'il pouvait y avoir. Et on se dit que si, je ne sais pas si c'est venu de lui, c'est-à-dire qu'il a eu besoin de coucher ça sur papier pour ensuite, au tournage, dire bon, j'ai pur, ou au montage, j'ai pur encore plus, parce que c'est un grand monteur, donc il a quand même dû travailler sur la matière même de ce qui a été enregistré. Mais déjà, le film était jugé comme une provocation, notamment par une partie, on va dire, de la gauche de l'époque, bien pensante, gauche de gouvernement, on dirait aujourd'hui, incarnée par le Nouvel Obs, et Bory. Je ne sais pas si c'est aujourd'hui, mais Cottrel est mort, Eustache est mort, savoir ce qui s'est passé, si quelqu'un a dit à un moment donné, écoute, il faut couper, ou si lui a eu besoin d'aller dans le super célinien, pour le dire vite, et en dégraissant, c'est la parole amoureuse qui fait advenir. C'est l'impression que m'avait donné la lecture attentive de ce scénario. Et là, on voit que le travail d'Épure qui a été fait à partir du scénario, Épure, enfin bon, je pense que le film ferait 5 heures s'il était tourné ou s'il a été tourné dans ces conditions-là. Épure, il fait 3h40. C'est quelqu'un qui a toujours senti l'exclusion. On voit où elle s'origine, enfin, Pessac, la province, un milieu ouvrier, pas à sa place dans le cinéma parisien, trop bourgeois. Pas sa place parmi même des gens qui se prétendent cinéphiles alors que lui il était beaucoup plus. Pas, je parle pas de ceux des cahiers de cette génération-là pour lequel il avait une admiration totale, mais une deuxième vague de qui l'intéressait moins. Des choses qui ont créé de la frustration, de l'acrimonie, qui lui ont fait mal.
Dans un livre que j'ai lu, le type parle de ses années d'école. Et il dit que quand il avait 15-16 ans, il était gêné par son professeur de français. Il ressentait comme un malaise, parce qu'il voyait que quand le professeur parlait de la passion dans les pièces de Racine et Corneille, il disait la même chose chaque année, faisait le même cours, et qu'après tant d'années, les mots qu'il disait n'avaient plus de sens, plus de cœur. Et qu'en fin de compte, ce professeur était le dernier à pouvoir parler de ça. Bien sûr, il les avait lus, apprises, mais il ne les vivrait jamais. Alors que lui, l'élève, sentait déjà qu'il allait dans sa vie vivre ces passions-là, ou des semblables. Qu'est-ce que tu en penses ?
Je pense que tu pourrais commencer par te dépuceler de la bouche. Bon, maintenant je vois Quatre Fontaines, tu viens ?
Mes Petites Amoureuses qui n'est pas tournée à Pessac, enfin la première partie n'est pas tournée à Pessac, le village était déjà en 20 ans avait changé, enfin la France était en train de changer. Et puis les scènes à Narbonne avec Ingrid Cavan dans le rôle de la mère, et essayer de recomposer un monde qui est déjà, dont il voit même entre disons les. Ce qui doit être 1953-54, puisqu'on voit les films, il va voir Pandora au cinéma, enfin, c'est des choses très, très justes, hein, j'imagine. C'est des souvenirs très précis, qui est une folie véritable La dernière demi-heure de mes petites amoureuses, c'est ce qui va être. C'est pas son premier baiser, parce qu'il donne des baisers à des filles dont il ne voit pas le visage au cinéma, mais là, il y a un premier, voilà, un premier patin, un premier. Première pelle, je sais pas comment on dit. Mais surtout, enfin, vraiment, première attache avec, comme ça, avec une fille qu'il avait vue chanter sur la route de Salinas. Il va avec plusieurs copains, il y a elle et sa sœur, et puis il y a les rivalités entre les mecs, enfin, c'est des petits cons. Enfin, voilà. Il arrive quand même à isoler cette fille de peur qu'on la lui arrache, et ils s'embrassent, et il y a du vent comme ça, enfin, il y a une distance entre les platanes, comme ça, les arbres le long de la route, des choses qui semblent millimétrées tellement c'est beau. Dont on comprend que là, c'est précisément ce qu'il avait compris de Renoir, c'est-à-dire il faut tout préparer, il ne faut rien laisser au hasard, c'est que tout ça est vraiment, enfin, doit revenir à l'exact moment de serment de cœur qui devait être le sien à l'époque. Et ce qu'on a appris plus tard, c'est que manifestement, il faisait pas très très beau, on le voit dans le film où il a fallu tourner la scène du baiser, et quelqu'un, je sais pas, peut-être Béraud a dû dire. On pourrait tourner après, je sais pas, dans 3 jours, la météo sera meilleure, on le tourne en 3 jours, et que là, ça a été crise absolue. Apparemment, c'était crise tous les jours, de toute façon, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de whisky, beaucoup d'alcool, beaucoup de. C'est un tournage très à vif, et que personne ne comprenait pourquoi il voulait tourner cette scène solaire par ce temps pourri, mais c'est parce qu'elle avait eu lieu le 20 ans, 22 ans avant, au même endroit, entre cet arbre-là et cet autre arbre-là. Il avait écrit sur Vertigo, l'un des rares textes qu'il a écrit sur Vertigo, pour dire exactement que le cinéma ne console pas, et que la reconstitution ne console pas. Et il va jusqu'au bout de ce processus, qui est un processus qui abîme, enfin, pour ne pas dire suicidaire, en reconstituant la chose, et en même temps, ça ne le console pas. Et le film sort, il sort mal. Et en une semaine, la messe est dite, le film marche pas du tout, il a aucun accueil critique, il est pas vu, enfin, il est pas commenté. Quand ça arrive, c'est trop tard et le film est dégagé en 2 semaines. Voilà, c'est un échec commercial.
Une sale histoire est un étrange objet de cinéma. Jean-Noël Pic, acolyte et complice de Stache, qui apparaissait déjà dans La Maman et la Putain, est convié par le cinéaste à raconter une histoire devant sa caméra. Récit d'une aventure totalement obscène et probablement imaginaire. Pic ici va rejouer le récit devant un petit auditoire féminin, choisi par le cinéaste. Ensuite, Eustache va retourner le même film, mais sur un mode fictionnel cette fois. Ensuite, il rassemble les 2 courts-métrages, place la fiction en première partie et le documentaire en deuxième, constituant ainsi un diptyque.
Alors c'était autrefois, il y a 7 ans, 8 ans environ, j'allais fréquemment dans un café, à la mode Piquet-Grenelle. J'y restais beaucoup car j'avais pas le téléphone chez moi, j'avais beaucoup de fils à donner. Et donc très fréquemment, enfin, je quittais ma table pour descendre au téléphone, qui était au même endroit que les toilettes.
Et comme on l'a dit, il essaye d'abord de. Il pense en faire un film, enfin au sens découpage, représentation, et puis il voit bien qu'il n'y a pas de représentation possible de ça, sinon filmer la parole qui vient. À quel moment, moi c'est ça que j'aurais aimé savoir, mais là on n'a pas. Il n'en parle jamais, il n'y a pas de trace de ça. À quel moment il se dit, quand on a un tour de génie comme ça, dire non seulement je fais un film de 23 ou 24 minutes où Pic raconte l'histoire, mais je vais dédoubler ça en. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a monté d'abord la version 16 mm pour en tirer un texte. C'est déjà très différent parce qu'apparemment c'était beaucoup plus long, là. Les rushs sont plus longs. Tirer un texte qu'il a donné à Michael Lonsdale, qui ne savait pas du tout qu'il y avait une version 16 qui avait déjà été filmée, ça, personne, enfin, Lonsdale n'est pas au courant, que Lonsdale va apprendre par cœur. Il n'a jamais rencontré Pic, donc il ne le sait pas. En tout cas, Eustache a toujours dit, mais rien ne vous prouve que Pic est réellement le voyeur. Pic est le conteur d'une histoire qui est déjà elle-même une folie. Et tout ça, donc, crée 2 volets qui s'arriment comme ça autour d'un cadre ou d'un centre vide. Moi, je vois plutôt comme un trou, évidemment. C'est un trou, et ce trou est un centre vide. C'est l'irreprésentable, c'est l'impossible de la représentation, c'est le sexe. C'est ce sexe dans lequel on veut aller y voir, et puis il n'y a rien à y voir, enfin, sinon un grand vide. Et dans ce vide-là, c'est tout le savoir sur le cinéma qui est flingué. C'est-à-dire quand une sale histoire est un film qui met, qui est presque un tombeau pour l'œil, un tombeau pour le cinéma. Enfin, le cinéma lui-même dans ses composantes et dans nos réflexes critiques, fiction, documentaire, vrai, faux, toutes ces valeurs-là sont complètement flinguées. C'est le cinéma qu'on a poussé dans le vide. Le film déclenche à nouveau scandale inouï, des circulations comme ça.
Eh bien voilà, c'était autrefois, il y a 8-9 ans de ça. J'allais fréquemment dans un café à la Motte-Mickey Grenelle. Et j'y restais beaucoup parce que j'avais pas le téléphone chez moi et j'avais beaucoup de coups de fil à donner. Donc, je quittais fréquemment ma table pour descendre au téléphone, qui était au même endroit que les toilettes.
Une sale histoire va lancer une dernière série, puisque le choix du suicide qu'a fait en 1981 Eustache a interrompu cette filmographie. Est-ce qu'elle est achevée ou inachevée? Si je peux livrer un sentiment intime, mais qui n'a aucune valeur de loi, c'est une pure intuition et je la garde pour moi. Et aussitôt que je la dis, je pense que je voudrais la ravaler. Il me semble qu'à un certain moment théorique, il a tellement déminé tous les endroits du cinéma. J'ai l'impression qu'à un moment, il arrive à une limite. Après déjà le coup de force qui était une sale histoire, mais en passant aussi par le film sur Bosch, qui est supposé être un tout petit film, mais qui est quand même pareil aussi délirant sur le savoir, la culture, alors qu'en fait, ce ne sont que des improvisations délirantes de Pic. On arrive à une impasse, quand même, malgré tout. Le 5 novembre 1981, il décide de se donner la mort. Et ça laisse cette œuvre, aujourd'hui.
Mais justement, qu'est-ce que ça signifie pour toi, aujourd'hui, le cinéma de Jean Eustache ?
Eustache nous a appris à parler. À parler aux femmes, à parler en public, à faire son lit. En tout cas, il nous a appris à parler... Et je crois que ce que je commence à comprendre depuis quelques temps en revoyant ces films, en les retravaillant, ou aussi pris par l'époque, c'est que Eustache nous a demandé d'écouter. Donc je peux dire que je crois que pendant des années d'adolescence jusqu'à il y a quelques années, Eustache m'a appris à parler et même à m'écouter parler, faire gaffe avec ça. Et puis Eustache m'apprend à écouter. C'est pas juste une blague, c'est un travail, c'est un renversement épistémologique presque. Ouais.
Quelle drôle de façon de faire elle.
J'ai vu faire ça dans un film. Les films, ça sert à ça, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit.
Vous devriez changer les draps, ils sont tous sales, il y a du sang.
Ah non, je ne les changerai pas. Cela pourrait donner des soupçons.
C'était les podcasts de la Cinémathèque française.